Alors je continue dans cette série sur ouvrir le ciel. Et juste une petite remarque sur le titre, ouvrir le ciel. Je me rappelle, on était dans le bureau de Rodrigue, on était là à cogiter avec Romain et Rodrigue. Et quelle série, quelle nouvelle série? Et donc Rodrigue avait déjà la série dans son cœur, mais quel est le titre de la série? Il est en train de réfléchir et puis... Vous savez, il y a une expression, le ciel ouvert, qu'on connaît bien, puisque à Clé, on l'utilise pour nos mercredis. Mais dans le ciel ouvert, ce qui manquait, c'était la notion d'aller chercher le ciel. C'était, ce qui manquait, c'était cette notion dynamique, d'aller saisir quelque chose que Christ nous a donné. C'est pour cela qu'on a choisi le titre « Ouvrir le ciel ». Et Steve, la dernière fois, quand il est venu prêcher la semaine dernière, il nous a dit « Mais le ciel est déjà ouvert. » Alors, s'il est déjà ouvert, à quoi ça sert de l'ouvrir? Je vais, je pense, à travers ce message, vous dire un peu plus en quoi il est ouvert et en quoi il est fermé. Mais l'important de cette série, et c'est vraiment ça que je voudrais transmettre en introduction, c'est qu'il y a une demande expresse de Dieu à aller chercher le ciel. Le ciel est ouvert, mais il faut aller chercher ce qu'il y a dans le ciel, et ça, c'est notre part. En fait, ouvrir le ciel, c'est un peu une provocation, nous pousser à l'action. Alors, comme petite histoire introductive à mon propos ce soir, je voudrais vous raconter une histoire d'un Indien qui vivait en Inde dans les années 1880. Il est décédé, je crois, en 1929. Il s'agit du Sadhu Sundar Singh. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, ça vaut vraiment le détour. Allez lire un de ses livres. Je me rappelle, j'étais tout jeune converti, j'avais 20 ans. Et quand je suis tombé sur son livre, je l'ai dévoré, je crois, en une nuit. Et il y a un passage dans son histoire qui m'a vraiment impressionné. Et c'est cette histoire que je voudrais vous raconter. Il était donc un Indien extrêmement religieux, dans le bon sens du terme, amoureux de Dieu, mais pas à l'occidental, vous voyez, c'est à l'indienne. C'est-à-dire, c'est radical, c'est 100% et à un niveau assez bien. Et puis, il avait un feu pour partager l'amour de Dieu au peuple qui ne le connaissait pas, et notamment au Tibet, aux Tibétains. Et pour cela, il allait, alors à l'époque, en 1800-1900, il ne devait pas y avoir trop de polaire et de vêtements super pour la montagne. Il devait traverser les zones montagneuses pour aller annoncer l'évangile aux Tibétains. Et un jour, il est là avec un compagnon tibétain, donc quelqu'un qui est habitué à la montagne, et ils sont là, et ils sont dans la neige. Il y a une tempête de neige, il y a les températures qui sont glaciales, et lui, ce qui le motive, c'est d'aller annoncer l'évangile à ceux qui sont derrière cette montagne. Alors, il y va, et c'est quasiment au péril de sa vie qu'il y va avec son compagnon, ils sont sur le chemin, et il marche pendant des heures. Et puis là, à un moment, il voit dans une fosse, à leur côté, un homme quasi mort. Il est gelé, transi, il est quasi mort. Et là, son compagnon lui dit, il ne faut pas qu'on s'arrête, parce que sinon, c'est nous qui allons mourir tous les deux. Alors, continuons, et il vaut mieux que nous, on s'en sorte, plutôt que de prendre la peine d'aller voir ce qu'il a. Mais le Sadhu Sundar Singh, il n'a pas fait ce choix-là. Il a eu compassion de cet homme et s'est dit, mais s'il y a un tout petit peu de vie, je vais quand même y aller. Et ce qu'il a fait, il est descendu dans le fossé, il a pris cet homme sur lui, il s'est chargé sur lui et il a continué le chemin. Et là, on comprend dans l'histoire que quand il fait ça, il prend un énorme risque. Il prend le risque de mourir à cause de cette charge supplémentaire sur lui. Mais la fin de l'histoire est étonnante. En fait, le fait de porter cet homme sur lui, la chaleur du corps de cet homme l'a aidé à tenir et à résister contre le froid. Et au final, il est arrivé vivant avec cet homme sur son dos, au bout du chemin, alors que son compagnon, lui, il est mort. Et dans cette histoire, ce qui m'a frappé, c'est le paradoxe, la contradiction apparente. Quelqu'un qui se sacrifie, il sauve deux vies. Et celui qui ne veut pas se sacrifier, il perd la sienne. Le Sadhu Sundar Singh, il y a plein d'histoires comme ça, assez incroyables, donc ça vaut le détour, je vous conseille d'y aller. Vous tapez ça dans Google et ça sort. Il y a même ses écrits comme ça sur Internet. Ouvrir le ciel. Alors on a un verset, il est écrit en gris, je ne sais pas si vous le voyez, mais on le cite souvent. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ?» Je pense que vous le connaissez par cœur maintenant. Pour commencer ce message, je me suis dit, je vais aller regarder d'abord dans ce passage et regarder un peu le contexte de ce passage. Et dans le contexte de ce passage, on voit que c'est en fait Salomon, le grand roi Salomon, qui a construit pour la première fois un temple pour Dieu, pour l'Éternel. Et en fait, quand il y a cette prière, c'est le moment d'inauguration de ce temple. Et ce temple, il est dit que Dieu choisit cet endroit comme maison de sacrifice. Et il dit, quand je fermerai le ciel, si mon peuple s'humilie, prie en direction de ce temple ou dans ce temple-là, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. En fait, Dieu disait qu'il aurait toujours ses yeux ouverts, ses oreilles attentives et son cœur vraiment très attentif sur ce temple. Et toutes les prières faites en ce lieu seraient exaucées. Et même au cas où les Israélites étaient en voyage ou étaient éloignés de ce temple, il se suffisait de prier en direction de ce temple, comme la Mecque, et Dieu dit « j'exaucerai leurs prières ». Donc on voit que quand le ciel est fermé, Dieu veut bien ouvrir le ciel quand une prière, une humilité, une humiliation du peuple se fait en ce temple. C'est mon point de départ. Avec le Nouveau Testament, on comprend que Jésus-Christ est ce temple. C'est un peu bizarre, mais avec Jésus, il y a plein de trucs étonnants. Et Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il est lui-même ce temple-là. Et ce qui se passe, c'est que toute la faveur de Dieu, tout le cœur de Dieu, tous les regards de Dieu, toute l'attention de Dieu avec Jésus-Christ se passe sur lui. C'est-à-dire que Jésus-Christ réussit, il est celui qui capte la faveur de Dieu. Il est celui sur qui Dieu le Père regarde et il bénit parce que le Christ est son temple, parce que le Christ est celui qui a eu sa faveur. Toute la bénédiction de Dieu, toute l'ouverture du ciel est concentrée sur Christ, le temple. Ouvrir le ciel. Qui peut ouvrir le ciel? Est-ce que moi, je peux ouvrir le ciel? J'aime Dieu. Je fais beaucoup de choses, je pense, je m'efforce de lui plaire, comme beaucoup ici. Mais est-ce que je peux ouvrir le ciel? En fait, aucun être humain ne peut ouvrir le ciel. Et Jésus-Christ est le seul qui peut, et il l'a fait, ouvrir le ciel. Et je pense que c'est le fondement et la base du thème que je veux aborder ce soir, qui est le sacrifice ouvre le ciel. Seul le sacrifice de Jésus-Christ peut ouvrir le ciel. Et Jésus, dès qu'il a commencé son ministère, c'est une des premières choses qu'il a dites. Jean 1, 51. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il dit ça à Nathanaël, un Israélite qui était vraiment selon le cœur de Dieu. Et quand Jésus passe, il voit cet homme. Et en fait, derrière cet homme, c'est tout le peuple d'Israël qui était selon le cœur de Dieu. Et à lui, il dit, désormais, tu verras le ciel ouvert. Alors on peut croire que c'est juste une annonce comme ça en passant. Mais en fait, Jésus fait là une annonce solennelle, puissante. Il fait référence à la vision de Jacob. Donc ça, c'est en Genèse, où Jacob, dans un rêve, a vu une échelle entre le ciel et la terre, et des anges monter et descendre sur l'échelle. Et Jésus fait référence explicitement à ça, en disant simplement, « Désormais, toute la puissance de Dieu, tous les trésors du ciel, toute l'action bienveillante de Dieu va se déverser sur la terre à travers moi. » Et ici, Jésus, c'est l'échelle. Les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme, l'échelle. C'est le Jésus. Il y a, c'est dans cette annonce, en fait, Jésus annonce les conséquences de ce qu'il va faire par la suite. Ce qu'il va faire par la suite, c'est son ministère, et au bout de son ministère, c'est la croix. Et la croix est le seul sacrifice que Dieu accepte et agrée et qui permet à la faveur de descendre sur la terre. Et on voit, c'est dans la slide suivante, qu'il y a deux passages, et il y en a d'autres encore, qui montrent sans aucun doute que c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous ouvre le ciel. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, dit Jésus. Ce corps qui va être crucifié comme un sacrifice. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Et ici, le « une fois pour toutes », c'est là pour prévenir l'homme de vouloir rajouter des sacrifices par derrière. Ça nous dit qu'il n'y a qu'un seul sacrifice que Dieu agrée, c'est celui de Jésus-Christ à la croix. Ouvrir le ciel, c'est Jésus qui ouvre le ciel. Et les conséquences à cela sont énormes, et la Bible en parle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit tout de suite après, « Approchons-nous donc !» Conséquence, tu peux t'approcher de Dieu. Alors qu'avant c'était un Dieu juste et un Dieu en colère à cause de nos péchés, maintenant tu peux t'approcher de Dieu en paix. Tu peux t'approcher de Dieu comme un père. Il est un père qui t'aime et il t'accueille dans ses bras. Parce qu'il n'y a plus de colère sur ta vie, parce que Jésus-Christ l'a pris sur lui. Sacrifice. Il dit encore, ça c'est Paul qui dit, « Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est un verset peut-être qu'on connaît, et puis à force de l'entendre, on ne l'entend plus. Mais quand on s'arrête, toute bénédiction spirituelle, dans tout, il y a tout. Il y a beaucoup de choses. Et Jésus dit encore, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » On voit là, juste dans ces quelques citations, il y en a plein d'autres, que le ciel a été ouvert par l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pour nous d'immenses conséquences qu'on n'aura même pas toute la vie pour découvrir la puissance, la teneur des conséquences de cela. Alors la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que le ciel peut encore être fermé ? Est-ce que le ciel peut encore être fermé sur nos vies ? Et je pense que la réponse est oui. Le ciel est ouvert sur Jésus-Christ. Il est ouvert sur tous ceux qui sont en lui. En lui, deux petits mots grecs, en Christos, qui sont rappelés maintes et maintes fois. Je n'ai pas compté, je n'ai pas de logiciel biblique, j'aurais bien aimé compter, mais je pense que ça dépasse la centaine, je suis sûr. Et avec ces deux petits mots qui changent toute la vie. Deux petits mots qui changent radicalement notre situation devant Dieu. Quand je suis en Christ, c'est-à-dire par ma foi, parce que je crois en lui, parce que je crois que son sacrifice à la croix règle mes problèmes vis-à-vis de Dieu, qui s'appelle le péché, je demeure en lui, je deviens attaché en lui, et en lui, toute la faveur de Dieu, tout l'amour de Dieu, toute la compassion de Dieu à mon égard, tous les rêves de Dieu pour moi sont libérés et sont déployés. En lui. Et c'est en lui que tout change. C'est quand je suis en lui que le ciel est ouvert pleinement sur ma vie, comme il est sur le Christ. Comme il est sur le Christ, et même pas moins. Et c'est pour cela que Jésus insiste et même implore à plusieurs reprises en disant « Demeurez en moi, reste près de moi, reste près de moi. » Alors j'ai une image pour cette situation, c'est un ciel fermé, mais il y a un endroit dans le ciel qui est ouvert et par lequel descend la lumière. Et cet endroit dans le ciel, c'est Jésus-Christ. Et pour moi, j'imagine le ciel ouvert, le ciel fermé avec cette image. Il y a un seul endroit où Dieu accorde sa faveur. Ce n'est pas le zèle d'une religion, ce n'est pas le cœur sincère, ce n'est pas une religion, quelle que soit sa forme, qui fait que l'homme obtient la faveur de Dieu. Seul un sacrifice, seule une réparation par rapport à nos péchés, seul quelque chose qui peut satisfaire la justice de Dieu, peut obtenir la faveur de Dieu, peut ouvrir le ciel sur nos vies. Et cela, seul Jésus-Christ l'a fait. et il le répand pour tous les hommes. Il le veut pour nous, il le veut pour toi et pour moi. En fait, quand Jésus implore et nous appelle « Demeurez près de moi, venez à moi », c'est pour recevoir pleinement cette lumière, cette bénédiction, cette grâce, cet amour puissant du ciel. Et je crois que le ciel peut être fermé dans nos vies. Alors j'ai distingué deux cas de figure. Quand quelque chose dans ma vie n'est pas vraiment en Dieu, n'est pas encore réglé, n'est pas encore dans la lumière, eh bien je crois que le ciel est fermé. C'est-à-dire quand il y a des choses dans ma vie qui sont encore dans l'ombre, qui sont, et on le sait en tant que chrétien, tout n'est pas réglé, tout n'est pas rose, il y a des difficultés, il y a des choses dans nos cœurs qui résistent encore. Et on sent qu'il y a, il n'y a pas la lumière de Dieu, il n'y a pas la grâce de Dieu, il n'y a pas la bonté de Dieu, il n'y a pas la liberté de Dieu. Il manque quelque chose. Alors je dis que dans ce cas-là, le ciel est fermé, mais dans le sens que sa grâce ne peut pas se répandre pleinement. Pas dans le sens qu'on n'est pas sauvé. On est sauvé, on est dans la présence de Dieu. Mais c'est juste que Dieu ne peut pas agir pleinement parce que cette zone-là est encore dans l'ombre. Exemple, quand un mensonge règne sur notre vie. Moi, j'avais un mensonge qui régnait dans ma vie, c'est « je suis rien ». Et dans les moments les plus douloureux de ma vie, même en tant que chrétien, le cri de mon cœur qui sortait, c'était « je suis rien ». Parce que dans mon histoire, mon père est vietnamien, ma mère est française, et moi je dis « je suis ni l'un ni l'autre, je suis rien ». Et ça, c'est un mensonge. Et je suis venu à Dieu parce que Dieu a puissamment touché mon cœur, parce qu'il m'a dit « je suis ton père ». Tu es légitime sur cette terre. Je suis ton Père, c'est moi qui t'ai créé. Je t'ai voulu ici et j'ai cru en cette parole. Et c'est comme ça que je suis venu à Jésus-Christ. Parce que j'ai reçu cet amour d'un Père pour moi. Mais vous voyez, les mensonges sont actifs dans nos vies et on n'est pas pleinement libéré. Et c'est en venant à Clé que j'ai vraiment compris que je suis quelqu'un. On peut le savoir intellectuellement, mais tant que ça descende, que ça devienne une vérité active dans ta vie, et ça a amené beaucoup d'épanouissement dans ma vie. Et ça, c'est un exemple pour dire que le ciel n'est pas complètement ouvert, dans un sens, il est fermé, sur nos vies en tant que chrétiens. Un deuxième cas, je crois, c'est quand je m'éloigne de Jésus. Et avec cette image, en fait, quand on s'éloigne de Jésus, ben, si on lève la tête, il y a les nuages. Et quand on s'éloigne de Jésus, c'est ça qui se passe, c'est que la faveur ne se trouve que en Jésus, pas ailleurs. On peut dire Dieu, Dieu avec un grand D, mais Dieu s'est révélé et Dieu passe par Jésus-Christ. Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et le Père, Dieu le Père, veut nous amener à lui par Jésus-Christ. Alors, et même en tant que non-chrétien, on peut vivre ça, le non-pardon. Le non-pardon ferme le ciel. La désobéissance, quand on désobéit à Dieu, on s'éloigne de cette ouverture. Plus subtilement, l'incrédulité. Moi, je bataille des fois avec ça. Parfois, je découvre l'incrédulité dans mon cœur. C'est-à-dire la résistance à la foi, ne pas entrer, se positionner dans la foi. Et on est tous concernés par ça. Et ce qui est encourageant dans tout cela, c'est qu'on a beau être imparfait, on a beau tomber, on a beau parfois même se décevoir soi-même, et on pense décevoir Dieu. Mais Dieu laisse toujours le ciel ouvert. Toujours, toujours, toujours. Et tant qu'il y aura une année, tant qu'il y aura un jour encore dans ce monde, il y aura toujours ce ciel ouvert en Jésus-Christ. Et Jésus nous y invite. Alors je voudrais, dans ce premier tiers de mon message, vous interpeller et vous dire peut-être que vous ne vous sentez pas sous la lumière ce soir. Peut-être que vous vous reconnaissez comme quelqu'un qui est peut-être là, sur l'eau ou dans les montagnes, mais loin, loin de cette ouverture. Et je voudrais vraiment vous dire, Jésus a ouvert le ciel pour vous, parce que le Père vous aime. Et c'est tout l'amour de Dieu qui a fait que Jésus est venu jusqu'à vous pour ouvrir le ciel pour vous. Alors simplement, la chose la plus simple à faire, c'est rapprochez-vous de Jésus-Christ. Rapprochez-vous de lui. Ne craignez pas la colère, parce qu'il n'y a plus de colère. Parce que Jésus-Christ a pris toute la colère sur la croix pour qu'on en soit libre. Le sacrifice de Christ ouvre le ciel. Du coup, j'en viens au cœur de mon sujet. Et nous ? Est-ce que nous, on doit encore faire des sacrifices du coup ? Est-ce que le mot sacrifice même a un sens, finalement, pour un chrétien, puisque Christ a tout fait ? D'ailleurs, sacrifice, c'est pas un mot qu'on aime. Hein. Il y a du sang, ça fait mal, quoi. Avec le mot, Alors, dans la Bible, il y a une réponse qui est claire, et je suis désolé, c'est oui. C'est clairement oui. Hébreux 13:15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. 1 Pierre 2:5, édifiez-vous pour former un temple spirituel, pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Et puis en Apocalypse 1:6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes sacrificateurs. Ça, c'est pas mal. Sacrificateurs. C'est-à-dire qu'on est chargé d'offrir des sacrifices, ici spirituels, à Dieu. Je crois que là, on a quelque chose comme une autoroute à explorer et à découvrir pour entrer davantage dans cette vérité. Est-ce que vous considériez jusqu'à présent comme un sacrificateur ? Si on devait écrire, chacun décrire comment il est sacrificateur, lundi, mardi, mercredi, ce serait intéressant de se poser les questions et de comparer les réponses. Ce qui est intéressant, c'est encore deux petits mots dans ces textes, par lui. Nous sommes sacrificateurs par lui, par Jésus-Christ. Et ça veut dire que la valeur de nos sacrifices n'ont de valeur que s'ils sont faits en Jésus-Christ. Et qu'en fait, c'est la valeur de Christ qui donne la valeur à notre sacrifice. Ce n'est pas la nôtre. En fait, c'est ça qui est beau avec Dieu. C'est ça qui donne de l'espoir à tout le monde avec Dieu. C'est la grâce. Dieu, ce que Dieu donne, ne s'achète pas. Ce que Dieu donne n'est pas basé sur ta valeur, sur tout ce que tu peux acheter avec ta force, tes moyens, ton intelligence, ta piété. Dieu ne regarde pas ces choses. Il regarde Christ et ta foi. Et c'est par ta foi que tu accèdes à ces choses. Alors, nous sommes sacrificateurs et nous offrons des sacrifices. Et je voudrais dire que le sacrifice pour un chrétien n'est jamais, jamais, jamais pour être pardonné. Ça, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Ça s'appelle l'expiation. À la rigueur, c'est pour se repentir. C'est pour faire signe de repentance qu'on fait un sacrifice. Par exemple, un jeûne, parfaitement. Un jeûne, jeûne de Daniel, ou même jeûne sec complet, c'est un signe de repentance. C'est pour dire à Dieu, je me repens, et à cause de ce qu'a fait Jésus-Christ, je sais que je suis entendu. Le sacrifice pour un chrétien, c'est fait pour l'adoration. Je crois qu'en fait, qu'en tant que chrétien, la première chose est finalement... Notre utilité finale dans le plan de Dieu, c'est de l'adorer. Nous sommes faits pour ça. Créés à son image, capables de capter la beauté qui est en Dieu, capables de répondre à cette beauté et de la célébrer. Capables même, parce que nous sommes, par notre vie, de manifester Dieu, parce que son image est en nous. En fait, en vivant selon les principes de Dieu, la première chose qui apparaît, c'est l'adoration. On rend grâce à Dieu. On l'élève par notre vie. Et donc, le sacrifice, c'est vraiment un acte d'adoration, fondamentalement. Et je crois aussi qu'il y a encore une chose, un élément, c'est nos sacrifices sont là pour le service de Dieu. Il y a des versets comme ça, Philippiens 2, 17, par exemple, qui montrent le lien entre tout ce que nous pouvons faire comme service pour Dieu, qui, en fait, est un sacrifice de bonne odeur, que Dieu agrée, que Dieu reçoit. La louange, l'adoration, la prière, le jeûne, nos dîmes et nos offrandes, nos services différents, le don de notre temps, plein de choses peuvent être considérées comme des sacrifices. C'est-à-dire des choses que nous offrons à Dieu, des choses qui nous coûtent. Là, il y a un aspect intéressant du sacrifice, c'est que le sacrifice coûte. Le sacrifice doit coûter. Dans le mot don, offrande, il y a un côté rond, il y a un côté sympathique. Dans le mot sacrifice, ça fait mal. Le sacrifice doit nous coûter. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Et il y a un principe en Dieu qui est de donner le prémisse. On voit dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire donner le premier. Le premier salaire, le premier, en fait, c'est le meilleur. Ce n'est pas donner le dernier, ce n'est pas donner le surplus, ce n'est pas donner le reste de ta vie, c'est donner le premier. Je me rappelle quand je faisais mes études en théologie, c'était des études difficiles. Parfois, je devais faire des choses comme de la philosophie, genre de bouquin, il faut lire 4-5 fois la phrase avant de comprendre ce que le gars veut dire. Et pour moi, le meilleur moment pour ça, c'était le matin. Passer le repas du midi, c'était impossible, je ne pouvais plus enregistrer ça. Je vais faire d'autres choses. Mais j'avais tellement à cœur d'être connecté au Saint-Esprit pendant mes études de théologie, parce que j'avais entendu dire que la théologie peut vous refroidir et tuer votre foi, et j'avais tellement la trouille de ça que je voulais rester, je ne lâchais pas le Saint-Esprit, et je passais 30 minutes au minimum, voire une heure, chaque matin, et c'était un sacrifice pour moi. Sur mes 3-4 heures de travail théologique du matin, je sacrifiais 30 à 1 heure pour être avec le Saint-Esprit, pour lui demander de me garder là-dedans. Sacrifice. Un exemple. Le sacrifice coûte. Il n'y a pas de sacrifice facile. Alors, j'ai cité divers sacrifices dans la Bible et vous pourrez les retrouver, si vous le voulez, avec les notes. Mais il y a encore un plus grand sacrifice que Dieu nous invite à faire, nous demande de faire. J'imaginais que vous voyez où je veux en venir. Ce sacrifice ultime, le plus grand que nous puissions faire à Dieu, c'est nous. C'est que nous nous considérions comme sacrifice pour Dieu. En d'autres termes, donner sa vie. Offrir sa vie à Dieu. Et offrir sa vie à Dieu, ce n'est pas juste venir le dimanche à clé, ou lire sa Bible, certes, tous les jours, même prier. C'est donner sa vie, toute sa vie, chaque seconde, chaque pensée, chaque chose, élément de ma vie, je le lui donne. Pas facile, ça. Paul dit en Romains 12, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte spirituel ou un culte logique, un culte évident. » Ce que je veux souligner ici, c'est que Dieu ne nous invite pas seulement à donner nos cœurs. Et on plane, vous savez, on peut être chrétien mystique, on donne nos cœurs, nos pensées, alléluia. Il dit ici ton corps, quelque chose de concret, de tangible, quelque chose que tu peux toucher, donne-le à Dieu. Donc on peut être chrétien dans les nuages et puis pas être concret et pas être conséquent par rapport à ce qu'on dit. Et Dieu ne veut pas ça. Il veut que toi-même, tu te donnes à lui. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est la motivation. Je ne me donne pas à Dieu par crainte, par peur. Je ne me donne pas, excusez-moi, pas à Dieu par religiosité ou par maîtrise et discipline de moi-même. Ce qui me pousse, ce qui me motive à me donner pour Dieu, c'est son immense amour. C'est son immense amour. Et là, il y a une clé pour le sacrifice. C'est dans quelle mesure je me sens aimé de Dieu. Si je me sens aimé de Dieu, je vais me sacrifier facilement pour lui. Facilement, entre guillemets. C'est ça qui est la vraie motivation, celle que Dieu désire en nous, pour nous donner. C'est de répondre à son amour. Nos sacrifices sont liés à notre connaissance, à notre expérience de l'amour de Dieu. Et si tu as du mal à te sacrifier, si tu as du mal à donner à Dieu, eh bien, regarde non pas ton sacrifice en te fouettant, en te disant « je vais y aller droit, 2019, c'est bon, résolution ». Regarde l'amour. Regarde l'amour de Dieu en toi. Cherche l'amour avant et tu verras, le sacrifice sera ta réponse. Steve, en commentant ce passage, Il fait une petite blague qui... J'aime bien les blagues de Steve parce que ça a l'apparence de blague, mais ce n'est pas des blagues, en fait. Derrière, il y a un truc qui sont... Et il posait comme ça, c'est cette question aux étudiants de destinée. Savez-vous, quel est le problème d'un sacrifice vivant? Parce que dans le texte, c'est sacrifice vivant. Il y a un souci avec ça. Un inconvénient, on va dire. C'est que le sacrifice vivant, bah, il est vivant, il peut partir de l'autel. Il peut se sauver. Il voit le couteau approcher, il voit la flamme approcher, et il se barre. Oh, je veux pas, Seigneur, je veux pas. Et il s'en va. Le sacrifice ouvre le ciel. Et nos sacrifices, dans ce sens, dans la lignée de ce qu'a fait Jésus-Christ, ouvrent le ciel. Dans le sens que par nos sacrifices, il y a un parfum de bonne odeur que Dieu, qui plaît à Dieu. Il y a une faveur qui descend parce que c'est fait en Christ. Mon troisième et dernier point, c'est que j'aimerais nous amener plus loin et nous pousser, nous encourager à aller chercher ce ciel ouvert, à aller chercher les choses qui sont dans ce ciel ouvert. Il y a des grâces, il y a des miracles, il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de puissant. Et nous y aspirons tous, je le sais. Si on a fait tout ce jeûne de Daniel, s'il y avait autant de motivation, c'est parce qu'on a soif. Les messages que Rodrigue a prêchés sur la soif, sur le désir de Dieu ont été reçus. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en nous. Et je voudrais qu'on aille plus loin par rapport au sacrifice. Et que nous allions ouvrir vraiment le ciel. Chercher les choses d'en haut. Je ne sais pas pour vous, ceux qui sont mariés, je ne sais pas combien d'années ça fait que je suis marié, ça fait 99, c'est ça? Ça fait 20 ans? Bon, ça fait 20 ans. Et il y a quelque chose que je fais, alors on va bien, on s'aime. Ma femme a dit à notre pasteur l'autre jour qu'elle était heureuse, alors moi ça m'a fait plaisir. Et il y a quelque chose que je fais, pas forcément souvent, mais régulièrement. Je me rappelle, je me remémore mes promesses de mariage. Je ne sais pas si ça vous arrive, à vous les hommes. Peut-être que vous avez déjà tout oublié. En fait, je me rappelle juste un passage. Et j'avais promis d'être un époux, un ami et un frère. Et pour moi, quand je me rappelle ça, ça m'aide à me recentrer sur mon mariage. Sur mon épouse. Ça me permet de me rappeler mon engagement et ce que nous vivons ensemble. Et pour moi, c'était très important, quand j'ai pensé mon mariage, d'avoir ces trois dimensions avec mon épouse. Je ne veux pas juste qu'elle soit mon épouse, mais je veux aussi qu'on soit frère et sœur en Christ. Et au début, notre histoire, c'est qu'on avait 6 ans de belle amitié et je ne veux pas le perdre, ça. Donc pour moi, je me rappelle ça et de revenir comme ça à des promesses fondamentales, ça m'aide à tenir le bon cap. Vous voyez ce que je veux dire? Et je voulais vous poser une question similaire à nous tous, alors pas sur votre mariage, mais sur votre baptême. Est-ce que vous vous rappelez la promesse que vous avez faite à Dieu par votre baptême? Peut-être pas une promesse que vous avez formulée avec vos mots, mais une promesse qui est incluse dans le fait de se faire baptiser. En ce moment, j'ai la joie d'accompagner les futurs baptisés. Il y a à peu près une dizaine de personnes parmi nous qui ont demandé de se faire baptiser. Et donc, je les rencontre une par une. On prend 30 minutes et puis je leur pose la question. Pourquoi veux-tu te faire baptiser? Quel est ton parcours avec Dieu? Et c'est vraiment fort intéressant. Et à chacun, je leur rappelle un texte qui pour moi est fondamental sur le baptême. C'est Romains 6 qui dit que le baptême... c'est une union avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Et je ne sais pas si vous étiez vraiment conscient, quand vous avez pris le baptême, de cette vérité, que par votre baptême, vous déclarez que vous vous unissez pour toute votre vie à Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Et vous savez, quand on prend le baptisé et on le plonge dans l'eau, en fait, c'est l'image de on l'enterre avec Jésus-Christ. L'eau, c'est comme la terre. Et après, on le ressort de l'eau, on ne le laisse pas, parce que Ça montre, le symbolique, c'est pour qu'il ressuscite avec Jésus et il marche d'une vie nouvelle. Mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Ça, c'est la promesse de notre baptême. J'espère que vous étiez au courant, et puis si vous n'étiez pas au courant, vous l'êtes maintenant. Et en fait, ce que je veux vous amener, c'est que cela a des conséquences. Et je ne sais pas si vous avez réfléchi aux conséquences, et pour moi, d'après ce message, il y en a une évidente. Il y a un passage que j'aime particulièrement dans la Bible, un de mes favoris, c'est Paul qui dit « Mon but, le but de ma vie, c'est de connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. » Je trouve vraiment beau ce verset. C'est comme un concentré de finalement ce que Paul vise sans se détourner. Et ce que dit ce passage, c'est que pour expérimenter la puissance de sa résurrection, en d'autres termes, le ciel ouvert, il faut aussi devenir semblable à Jésus dans sa mort. Là, ça devient moins drôle. Ça veut dire mourir. Ça veut dire sacrifice. Devenir semblable à lui dans sa mort. Et quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, on voit que ce n'est pas que des paroles. Il vivait assez fortement, assez intensément ces mots. Dans la Bible, on a encore plusieurs passages, plusieurs expressions même pour décrire cela. Porter sa croix, renoncer à soi-même, crucifier le vieil homme, mourir avec Jésus. En fait, peut-être, c'est pas comme ça qu'on comprend l'évangile au début, c'est peut-être même pas comme ça qu'on l'annonce au début, mais venir à Jésus-Christ, c'est d'abord retrouver la paix avec Dieu, c'est retrouver l'amour, la connexion avec celui qui nous aime plus que personne. Mais après, c'est un chemin. Jésus ne nous laisse pas et dit « Voilà, t'es converti, maintenant c'est super, et puis vas-y, vis ta vie. » Mais il nous dit « Maintenant, suis-moi. » Et il y a un chemin sur lequel Jésus passe devant. Et il nous dit « Suis-moi. Viens avec moi. Viens avec moi. » Et ce chemin passe par le sacrifice. Ce chemin passe par une mort à nous-mêmes. Et heureusement pour nous, le but, ce n'est pas ça. La fin du chemin, ce n'est pas la mort à nous-mêmes. Mais c'est pour passer de l'autre côté où il y a la puissance de la résurrection, la vie éternelle et un ciel ouvert. Alors on pourrait se dire, oui, ben, c'est bien, ça c'était Paul. Paul, il était un peu fanatique quand même. Il était à fond, à fond. Moi, je veux être un chrétien normal, tranquille, un chrétien... Vous voyez, on essaie de négocier avec Dieu. Mais en fait, c'est notre chemin, c'est notre appel. Et c'est ça le ciel ouvert. Pour aller au ciel ouvert, c'est ça le chemin. C'est suivre Jésus-Christ jusque dans sa mort, pour atteindre sa résurrection. Il y a Paul qui disait « La mort agit en nous, mais la vie agit en vous. » Et c'est là le paradoxe de mon histoire d'intro, c'est que quand nous acceptons de suivre Jésus dans ce chemin et d'accepter ce sacrifice, il y a un paradoxe, la vie en découle, la vie en jaillit. Il y a quelque chose de puissant qui se déverse à travers votre vie alors que vous la sacrifiez. Quelque chose d'en haut, une puissance d'en haut, la puissance de la vie, la puissance qui est en Jésus-Christ. J'ai un dernier passage pour ce soir, c'est Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Et dans mon message, en fait, c'était ça, le verset qui était au fond de mes entrailles et de mon cœur pour ce soir. C'est vous êtes ressuscité, alors cherchez les choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ. Et ici, ce n'est pas si au sens de au cas où, peut-être, il n'y a aucun doute, tu es ressuscité. En tant que chrétien, tu es ressuscité. dans le sens que ton esprit a commencé à vivre, que ton esprit s'est levé. Et il y a quelque chose en toi qui s'élève dans la vie et quelque chose en toi qui diminue dans la mort. Ton ancienne vie, ta chair, le vieil homme, tout ce qui en toi résiste à Dieu, tout ce qui en toi veut aller de l'autre côté du chemin que Dieu t'invite, eh bien cela est en train de diminuer. Et ton être intérieur, celui qui aime Dieu, celui qui réagit à la louange, celui qui aime la parole de Dieu, celui-là est fait pour monter. Le ressuscité, cette partie de moi qui est réveillée, qui est amoureuse de Dieu, mon esprit qui a la capacité de voir et de comprendre les choses du ciel, qui a les capacités de les désirer et de les chercher par la foi. Et dans ce passage, on voit que pour Dieu, ce n'est pas une option, c'est un appel. Puisque tu es ressuscité avec le Christ, cherche les choses d'en haut. Puisque tu es ressuscité, cherche les choses d'en haut. Quand Jésus parlait à Nicodème, il lui expliquait que seul un homme né de nouveau peut voir le royaume de Dieu. Et avec ce passage, on va encore plus loin et on voit que seul un ressuscité, c'est-à-dire quelqu'un qui vit par l'Esprit, peut se saisir, peut aller chercher des choses dans le ciel, se saisir des choses d'en haut et l'amener dans sa vie. Et c'est ça qui est pour moi le bon chemin pour vivre le sacrifice aujourd'hui. C'est suivre Jésus. C'est répondre à cette promesse que nous avons faite à notre baptême, de le suivre dans sa mort pour déboucher dans sa résurrection. Et ça, ce n'est pas juste à la fin, mais c'est aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas un appel à la fin des temps. C'est un appel pour que notre vie change aujourd'hui. C'est un appel pour que le ciel soit ouvert pleinement aujourd'hui. Et je crois que nous sommes dans une saison, ici à Clé, nous sommes dans une saison où Dieu veut nous amener beaucoup plus loin. Mais pour cela, il y a un prix. Pour cela, il y a quelque chose à faire. C'est être encore plus proche de Jésus-Christ que nous ne le sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore au centre de ce tunnel lumineux qui était sur la photo tout à l'heure. Nous ne sommes pas encore assez proches pour vraiment recevoir pleinement toutes les grâces que Dieu veut déverser. Ce qui me frappait en méditant tout cela, c'est de réaliser que finalement, dans le sacrifice, il y a une joie. Alors, je ne suis pas maso, ni sadique. Il y a une tristesse dans le sacrifice, et Jésus l'a vécu plus que tous. « Mon âme est triste jusqu'à la mort », il disait cela avant d'aller à la croix. Mais il y a une joie dans le sacrifice, une joie pour les chrétiens, parce que on sait que notre sacrifice ne débouche pas sur la mort, sur notre mort, mais elle débouche sur la vie. Elle débouche sur cette vie d'en haut, cette vie qui est puissance, cette vie qui est le ciel ouvert. Et la mort, notre mort, est un passage. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en Christ, la mort devient un simple passage vers la vie, une vie beaucoup plus abondante, beaucoup plus grande. Il y a une joie dans le sacrifice, une joie de l'esprit. Paul disait, les chrétiens sont des fous. Pour ce monde, les chrétiens sont des fous. On est fous. Désirer le sacrifice, mais on est fous. Parce que c'est que l'esprit qui peut capter ça et qui peut sentir la vie derrière. Petit témoignage pour terminer, j'ai, il y a quelques semaines, fait une prière. Quand Rodrigue prêchait sur le changement des habitudes, j'ai réfléchi, quelle habitude dans ma vie, quelle mauvaise habitude j'aimerais voir changer en 2019. Et au début, je ne trouvais pas. Et puis après, j'ai pensé, quand je fais mes comptes, les finances, moi, je ne fais jamais les comptes le soir pour bien dormir. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Pourtant, je fais des maths, j'aime les maths, mais compter mes sous, je n'aime pas. Parce qu'il y a toujours une déception à la fin. Moi, je suis un gars optimiste et je me dis, oh, on a plein de sous. Et en fait, à chaque fois, je vis une inquiétude. Alors des fois, bon, financièrement, on va bien hein, en ce moment, mais je vis une inquiétude, quelque chose qui me taraude le cœur. Et je me dis, ouais, ça c'est une mauvaise habitude dans ma vie, ça, Seigneur, je voudrais que ça parte en 2019. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, agis dans ma vie, parce que ça, je veux le dépasser, je veux grandir, je veux être libre par rapport à l'argent, je veux plus que ce soit une source d'inquiétude dans ma vie, je veux pas que mon cœur soit serré quand je fais les comptes, je veux une liberté, je veux le ciel ouvert dans ce domaine. Et vous savez que quand on prie Dieu, il répond. Pas, même quasiment jamais, comme on s'y attend. Et quelques semaines, peut-être 15 jours après, c'est assez rapide en fait, Dieu me demande, par l'intermédiaire de quelqu'un, de faire un sacrifice financier. Et là, pendant quelques minutes, les mécanismes mathématiciens dans ma tête se sont mis à rugir pour toujours arriver au même résultat, rouge, 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 ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Alors, les premières minutes ont été des moments de sueur froide. Mais en moi, je me suis rappelé cette prière. Et dans mon cœur, il y avait une joie parce que je comprenais, t'as prié Dieu et Dieu te propose ce chemin-là pour aller vers ta liberté et pour sortir de quelque chose qui appartient au passé, qui appartient à ton ancienne vie, celle qui n'était pas en Christ et qui a peur, qui est dans l'inquiétude, qui est dans la crainte quand on parle d'argent. Et moi, j'ai ressenti une joie. Et cette joie, elle est là. Franchement, je suis heureux de faire ce sacrifice financier. Parce que mes yeux ne sont pas sur la perte, qui est une perte, il faut le dire. Mes yeux sont plus loin, mes yeux vont plus loin, mais vers cette liberté, cette puissance que ça dégage dans ma vie. Et je sais qu'à travers cet acte, je grandis et je suis affranchi. Alors, voilà, c'était un petit exemple, pour moi c'est un grand exemple, de sacrifice. Mais pour vous dire que le sacrifice, c'est le ciel ouvert. Je le crois, c'est un chemin pour le ciel ouvert. Et Dieu ne veut pas qu'on aille dans le sacrifice avec des larmes, avec des pleurs, avec... Il veut qu'on y aille comme des fous, avec la joie dans nos cœurs, en esprit. Marcher avec Jésus dans sa mort et sa résurrection et être des baptisés, fiers de l'être et qui assument et qui sont conscients qui marche avec Jésus. Alors, très concrètement, j'ai pensé à quatre petites choses que vous pourriez faire si vous en avez envie après ce message, histoire de ne pas vous laisser juste avec des paroles et des belles pensées. D'abord, vous pouvez méditer, relire ce message. Il y a des résumés qui sont faits maintenant, c'est la nouvelle formule, donc qui vont être via GPS et tout. Bon, si vous le souhaitez, vous pouvez me le demander. Il y a les vidéos sur YouTube, je pense, si c'est filmé aujourd'hui. Donc vous pouvez toujours revenir sur les messages et méditer, approfondir. Et en fait, je vous invite à le faire parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses, il y avait beaucoup de choses en fait dans ce message. Il y a de la densité, histoire de méditer. Après, une deuxième idée à vous proposer, c'est de faire un point avec Dieu. Donc vous entrez dans votre chambre, vous fermez la porte, personne ne vous voit, et puis vous faites un point honnête avec Dieu. Quel sacrifice offrez-vous ? Et quel sacrifice voulez-vous offrir cette année à Dieu ? On va un cran plus haut. Quel sacrifice es-tu ? Et quel sacrifice veux-tu devenir en 2019 ? Et pour sceller le truc dans le marbre, je vous invite à écrire. Parce qu'écrire, c'est pas comme les pensées, ça part, ça évanescent. Mais écrire, le problème c'est qu'après on peut relire, dire « Ah oui, tiens, j'ai écrit ça ». Et puis, troisième proposition, si ce message vous a interpellé, je vous propose un défi. C'est d'y répondre par un sacrifice. C'est-à-dire, prenez le temps avec Jésus, méditez votre baptême, méditez votre promesse, cet engagement que vous avez pris avec lui lors de votre baptême, ou que vous allez prendre avec lui lors de votre baptême à venir, et choisissez un sacrifice précis. Je vous rappelle, sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Et faites-le avec ce message. Faites-le juste pour dire à Dieu, je veux le ciel ouvert. Je veux ce qu'il y a derrière le sacrifice. Je veux le ciel ouvert. Je veux la puissance de la résurrection. Et Seigneur, je veux faire ce sacrifice pour cela. Et je vous garantis, quand on provoque Dieu, il y a des choses qui se passent. Et puis, dernière proposition, eh bien, c'est d'écouter attentivement l'annonce que Rodrigue va faire dans quelques minutes. C'est une belle occasion aussi de répondre à cela. Si vous voulez bien, je vais prier et terminer en priant. Seigneur, tes voies sont étonnantes. Tu fais des choses qui nous surprennent toujours. Mais ce que tu fais est profondément beau. Ce que tu fais est profondément solide. Et si tu nous invites à mourir à nous-mêmes et à te suivre sur ce chemin de sacrifice, ce n'est pas pour rien. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de beau, de puissant derrière. Alors Seigneur, ce soir, tu nous vois, tu vois chacun de nos cœurs. Et ce que je veux te demander, c'est de nous rendre capables de te répondre. C'est de nous rendre capables de marcher avec toi et de te suivre dans ta mort et dans ta résurrection. Seigneur, merci pour la vie avec toi qui est belle, qui est puissante, qui est profonde et qui est éternelle. Tu es celui qui nous aime et ton amour et ta paix sont constamment là dans ta lumière. Seigneur, je prie pour cela. C'est que tu nous amènes plus proche de toi. Et je prie tout particulièrement pour ceux dans cette pièce qui se sentent loin de toi. Je te prie, Jésus, attire-les à toi. Qu'ils puissent être sous ce tunnel de lumière et recevoir tout l'amour, toute la paix, toute la faveur, toute la délivrance qui vient, qui coule librement, abondamment, par la croix. Dans le nom de Jésus. Amen.